16h28, Philippe Quentin. D'habitude, à cette heure-là, notre ami Martin McGuire est avec nous. Mais le Canadien fait relâche et Martin fait relâche aussi. Je pense qu'il est à Caio Coco ou quelque chose comme ça. Non, je sais pas il est où, mais j'espère qu'il se repose et qu'il repose sa voix surtout.
Oui, tout à fait. Puis qu'il va sûrement nous revenir en pleine forme. De gros matchs qu'attendent le Canadien à la reprise à compter de lundi prochain. La grosse question, est-ce qu'il sera déjà trop tard? Ça ressemble un petit peu à ça parce qu'on en a parlé tantôt, Patrick. Les clubs qui doivent perdre pendant le congé du Canadien, eh bien, ils gagnent.
Ben,
et ça fait que l'écart se creuse encore
les
davantage.
Bon, mais pendant ce temps-là, ben écoute, on a beaucoup d'admiration puis on suit avec attention le parcours de Laurent Duvernay-Tardif qui a donné hier une conférence de presse à presque deux semaines du Super Bowl.
Oui, tout à fait. En fin d'après-midi hier, il a rencontré par téléphone, répondu aux questions des journalistes québécois. Puis il y a beaucoup de choses dans cette entrevue-là qui étaient très intéressantes. Puis je veux vraiment faire jouer un extrait de l'entrevue où Laurent Duvernay-Tardif explique ce que ça représente le Super Bowl. Il y a déjà son idée, mais je suis convaincu d'une chose, Patrick, c'est que dans deux semaines, quand ça sera terminé, son idée va encore avoir changé, va encore avoir évolué parce que pour avoir eu la chance de couvrir des Super Bowls, c'est inimaginable comment ça se passe là-bas, gros, comment c'est immense. On a beau le dire, on a beau le savoir, quand on arrive là, ça nous frappe toujours un peu, c'est comme un choc. Alors, je suis convaincu que Laurent Duvernay-Tardif vivra une expérience encore, lui, de l'interne, de l'intérieur de la machine absolument spectaculaire. Mais voici ce qu'il avait à dire à propos du Super Bowl.
C'est l'ampleur que cet événement-là a dans l'esprit de tout sportif. Puis ça transcende le football. Puis même, je pourrais dire que ça transcende le sport d'une certaine façon. T'sais, c'est un événement qui est capable d'aller chercher tellement de monde de différentes sphères, que ce soit pour le football, le show de la mi-temps ou juste l'attraction en général. Puis à chaque Super Bowl, que j'ai regardé dans ma jeunesse au cégep à l'université, je pouvais pas m'empêcher d'aller voir les statistiques, les statistiques folles sur le nombre de personnes qui le regardent, mais le nombre d'avocats puis de chicken wings qui sont consommés aux États-Unis, etc., etc.
Philippe, là, écoute, tu vas m'expliquer quelque chose là. Laurent Duvernay-Tardif, athlète d'exception, bon gars, drôle, médecin, premier médecin qui premier médecin en exercice qui joue aussi dans la NFL. Et on vient de l'écouter, là, un gars super éloquent.
Oui.
Y a-tu des défauts, ce gars-là?
Ben, on ne lui en connaît pas, c'est sûr. J'imagine qu'il est comme tout le monde. Il doit bien en avoir un ou deux, mais c'est vraiment...
Y a-tu déjà pas tenu la porte à une madame qui s'apprêtait à sortir d'un centre d'achat?
Probablement pas. Et moi, je l'ai croisé une fois, c'était à RDS. C'est tellement une immense pièce de gars. Il est tellement impressionnant. Tellement impressionnant physiquement. Mais moi, ce que j'admire le plus chez Laurent Duvernay-Tardif, c'est comment ses intérêts sont variés, sont multiples. Il s'intéresse à son sport, il s'intéresse à la science avec la médecine, bien sûr, mais il s'intéresse aux arts aussi, il s'intéresse aux jeunes, il s'intéresse à ce que j'appellerais l'équilibre dans la vie. Tu sais, il y a des athlètes qui vivent pour le sport, puis c'est le sport à 200%. C'est la seule préoccupation qu'ils ont dans leur existence. C'est correct, là. C'est souvent comme ça qu'on réussit à faire une belle carrière. Mais lui, c'est un modèle complètement différent. Et de ce côté-là, il est hors norme. Et moi, je pense que les gens partout aux États-Unis vont le découvrir au cours des deux prochaines semaines. Si ce gars-là jouait dans le marché new-yorkais, il serait déjà une vedette encore plus grande qu'il est.
Tu penses, oui?
Ah ben oui, c'est sûr. C'était tellement une caisse de résonance extraordinaire à New York, tu sais, au nombre de médias, puis tous les talk-shows qu'il y a, puis tu sais, il aurait déjà été invité partout.
Il serait la coqueluche, là, oui.
Ben oui, c'est sûr. Alors, il est dans un marché beaucoup, beaucoup, beaucoup plus modeste. Écoute, il n'y a pas beaucoup de marchés plus modestes que Kansas City dans la Ligue nationale de football. Tu es sur aucune des deux côtes. C'est pas une ville immense. Alors, c'est sûr que déjà, pour lui, cette chance de participer au Super Bowl, ça va augmenter énormément son retentissement. Puis je te le prédis, la journée, le fameux Media Day la semaine prochaine, c'est la journée où les journalistes peuvent rencontrer tous les joueurs du Super Bowl qui sont là, chacun à sa petite tribune. Il va avoir une file devant Laurent Duvernay-Tardif, j'en suis convaincu.
Bon, on est bien fiers de lui. Dis-moi, Philippe, les Jeux olympiques de Tokyo approchent, c'est l'été prochain, et il y a un certain Tiger Woods qui aimerait ça y aller.
Oui, Tiger Woods rêve d'aller aux Jeux olympiques, il l'a confié déjà à plusieurs médias, mais voilà, il n'est pas sûr d'y aller parce que les États-Unis ont le droit à 4 représentants dans le tournoi de golf. C'est le golf sera pour la deuxième fois aux Jeux olympiques. La première fois, c'était en 2016 à Rio. Et donc, la façon de se qualifier pour être un des 4 premiers, il faut que tu sois un des 4 premiers Américains au classement mondial. À la date limite, la date butoir, c'est le 22 juin. Alors, il faut que dans le classement mondial des golfeurs, on va prendre les 4 premiers Américains pour représenter les États-Unis au 22 juin. Et donc, il faut qu'il soit parmi les 4 premiers. À l'heure actuelle, il est le 5e. Si c'était aujourd'hui, il ne serait pas aux Jeux olympiques parce qu'il est devancé dans le classement mondial par Brooks Koepka, Justin Thomas, Justin Johnson et Patrick Cantlay. Et pourtant, il est 7e au monde, là, mais c'est les Américains qui dominent le classement. Alors, là, c'est sûr que s'il gagnait encore un tournoi majeur, par exemple, le tournoi des maîtres, ben là, il y aurait suffisamment de points pour se qualifier. Mais si ce n'est pas le cas, ça risque d'être plus compliqué. Alors déjà, le New York Times évoquait ça cette semaine, Patrick. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation où un des joueurs, devant l'appel généralisé du public pour avoir Tiger Woods aux Jeux olympiques, pourrait dire « ben moi, j'y vais pas ». Par exemple, un Patrick Cantlay dit ah, « ben, je vais attendre, je suis encore jeune, je vais attendre un an ». Et ça permettrait à ce moment-là à un Tiger Woods. Et j'ai l'impression que si les 5e au classement, les pressions vont être fortes. Et le New York Times racontait une histoire vraiment intéressante. C'est qu'il y a un précédent. En 2004, en Australie, Ian Thorpe, tu te souviens d'Ian Thorpe, là, c'est un nageur absolument exceptionnel.
Oui.
Il rate sa qualification pour représenter l'Australie aux 400 mètres style libre. Il est devancé par un autre athlète moins connu. Et finalement, cet autre athlète moins connu lui a cédé sa place. Il a annoncé sa décision dans une émission télévisée. Il avait donné une entrevue. Et la petite histoire veut que pour avoir donné cette entrevue-là, il a reçu une somme, encore une fois, selon les articles publiés à l'époque, supérieure à 100 000 $. Alors, mais lui, il a toujours dit que c'était pas une question d'argent. Je pense que lui aussi, à ce moment-là, cet athlète-là réalisait que la pression était seulement trop forte. On lui pardonnait comme pas. Et Ian Thorpe était lui aux Jeux olympiques et a encore gagné la médaille d'or, a défendu avec succès son titre olympique.
Pas lui qu'on surnommait la torpille.
Exactement, ah, exactement. T'as une très bonne mémoire. Bravo, bravo, bravo.
Tant que j'ai pas pensé à Ian Thorpe.
Oui, alors, donc, il y a un précédent. Alors, ça serait vraiment, ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Mais bien sûr, la plus simple façon, ça serait de gagner, de terminer parmi d'être parmi les 4 premiers Américains au 22 juin. Puis c'est tellement drôle parce qu'en 2016, les golfeurs, là, ils ne voulait pas y aller au tournoi de golf à Rio. Sais-tu pourquoi?
Pourquoi?
Ben, deux raisons. D'abord, le virus du Zika. Tu te souviens comment on en a parlé? Il y a même des gens qui suggéraient à ce moment-là de remettre les Jeux olympiques. Là. Ça avait été une idée qui avait été sérieusement évoquée, tellement on s'attendait à une catastrophe qui ne s'est pas produite. Et puis, deuxièmement, il y avait les questions de sécurité aussi. T'sais, il y a beaucoup de joueurs qui craignaient ça. Alors, tu as des joueurs aussi connus que Jason Day, Jordan Spieth, Rory McIlroy, pardon, Dustin Johnson. Ils ne sont pas allés aux Jeux olympiques. Et il y en a qui les ont jugés un petit peu sévèrement. Puis t'en as un, je me souviens, j'étais allé à la conférence de presse, j'ai couvert les Jeux, puis j'étais allé à la conférence de presse à Rio, où l'équipe américaine de golf était là. Et puis il y avait Ricky Fowler. Puis Ricky Fowler, c'est un jeune joueur, il n'a pas encore gagné de majeur, mais il est électrisant, il est très connu, très populaire auprès du public. Puis lui, il s'était même fait tatouer les anneaux olympiques sur le bras. D'ailleurs, tu le vois encore aujourd'hui quand il joue au golf, là, tu peux très bien voir les anneaux olympiques. Puis il avait dit justement comment il trouvait ça regrettable que des grands noms comme ceux que je viens de mentionner n'étaient pas là. Puis il dit j'ai essayé de les convaincre jusqu'au au bout, je les ai appelés, mais ça n'a pas fonctionné. Mais là, en 2020, il n'y a pas ces problèmes-là à Tokyo, alors ils veulent tous y aller.
Et c'est une très belle ville en plus.
Oui.
Franchement, là, je suis allé là un jour en transit, deux jours, puis j'aurais voulu passer.
Avec ses 7 centres-villes.
Voilà. Merci, Philippe. On te retrouve demain. Merci pour ta contribution. Aujourd'hui, 16h, presque 37, au retour, un film québécois au Festival des films de Berlin.